tous, dernier jour de cette semaine de Grande Table, toujours sur les sentiers de la création. À 13h50, François Sureau évoquera l'homme qui tenta de reconstituer les voyages d'Ulysse, Victor Bérard. Mais avant cela, nous allons rendre hommage à l'actrice Olivia de Havilland, qui s'est éteinte dimanche dernier. La célèbre Mélanie d'Autant en emporte le vent, deux fois oscarisée pour À chacun son destin et L'héritière, marqua l'histoire d'Hollywood, de ses performances, mais aussi de son illustre procès remporté face à la Warner. Revenir sur son parcours, c'est revenir sur l'histoire ambivalente qu'entretient Hollywood avec les femmes, actrices, réalisatrices, scénaristes, si présentes à l'ère du muet, minoritaire et discriminée, à celle du parlant. C'est à cette histoire passée sous silence que se sont intéressés les documentaristes Clara et Julia Kupperberg. Aujourd'hui, autour de la grande table, en compagnie de l'essayiste et historien du cinéma, Christian Viviani. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Besserie.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
On va revenir sur le parcours d'abord d'Olivia de Havilland. Alors on parlait évidemment de ses débuts, de son contrat avec la Warner. Peut-être quelques mots sur ce personnage auquel vous êtes en train, je crois, Julia et Clara Kupperberg, de consacrer un film autour de sa relation avec sa sœur.
Oui, tout à fait. On est en train de...
Julia Kupperberg, oui.
Oui, on est en train de préparer un documentaire sur la relation plus que tumultueuse parce qu'elle se détestait avec sa sœur. Donc on s'est dit qu'étant sœur, ça tombait bien. Parce qu'on pouvait comprendre du coup la relation qu'elles avaient.
Et ça fait rire votre sœur hein, de le dire de cette manière.
J'ai cherché un moyen de le placer gentiment, mais et du coup on a voilà et donc OCS Géant nous a proposé de faire un documentaire sur elle, sur leur relation, pourquoi la rivalité. Elles étaient toutes les deux actrices, elles étaient toutes les deux elles avaient beaucoup de succès toutes les deux, c'était toutes les deux très talentueuses et on a voulu comprendre pourquoi autant de haine.
Alors on va revenir sur ce parcours d'Olivia de Havilland. Christian Viviani, c'est un parcours à la fois, alors ce qui l'a fait remarquer au cinéma, c'est évidemment sa prestation dans Autant en emporte le vent. Et cette place-là va lui donner finalement la possibilité d'avoir une sorte d'aura à Hollywood, alors tant du point de vue de son influence sur les studios que en tant qu'actrice à travers ce rôle de Mélanie.
Oui, c'était un rôle qu'elle convoitait en fait. Alors que le consensus parmi les actrices à Hollywood, c'était de refuser le rôle parce que c'était un rôle qui était fade à côté de la flamboyante Scarlett. Et je crois qu'on en revient à ces histoires de sœurs quand Joan Fontaine, probablement avec une certaine pointe d'ironie, souffle à Selznick qui lui proposait le rôle. Mais pourquoi ne proposez-vous pas à ma sœur Olivia? Je pense qu'elle croyait lui faire un croc en jambe. Et en fait, c'est ce qu'attendait Olivia de Havilland. Parce que c'est un rôle qui la sort complètement de la manière dont elle était typée dans les films Warner, c'est-à-dire l'ingénue romantique, notamment des films avec Errol Flynn.
Alors on va écouter un extrait d'Autant en emporte le vent, 1939, un film de Victor Fleming.
Ashley.
Happy?
So happy.
You seem to belong here. As if it had all been imagined for you.
I like to feel that I belong to the things you love.
You love 12 Oaks as I do.
Yes, Ashley. I love it as more than a house. It's a whole world that wants only to be graceful and beautiful.
It's so unaware that it may not last forever.
You're afraid of what may happen if the war comes, aren't you? But we don't have to be afraid, for us. No war can come into our world, Ashley. Whatever comes, I'll love you just as I do now, until I die.
Alors, Clara Kupperberg, on va peut-être raconter ce qui se passe. Justement, cette scène avec Ashley Wilkes, qui est interprétée par Leslie Howard, et ce rôle-là de Mélanie dans Autant emporte le vent, très typé, on disait très typé, Christian Viviani disait cela, à propos de alors la voix, la manière justement, c'est peut-être encore plus prégnant par le son, hein, la oui. manière dont les femmes, aussi les actrices hollywoodiennes, jouaient dans cette période. On est en 1939.
Tout à fait. Mais les femmes à cette époque sont quand même assez stéréotypées dans un genre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais on leur attribue une étiquette,
Et là, elle est à la Warner, donc elle est l'ingénue, elle a la voix suave, elle est la gentille Mélanie, mais elle est la gentille dans tous ses films. Et ça, c'est quelque chose que petit à petit, elle va essayer de casser. Elle va vouloir, justement, après son rôle de Mélanie, qui va avoir un succès incroyable, elle va vouloir des rôles, justement, un peu plus forts, et elle va se battre contre la Warner pour ça. Parce que la Warner veut la laisser, justement, Jack Warner, le patron de la Warner, veut la laisser toujours dans la même case, dans la même étiquette. Alors elle va être punie et se battre.
Et se battre. Alors, dans ce film-là, elle est aussi en miroir avec le rôle de Scarlett, ce qui était aussi ce qui se pratiquait aussi à l'époque, deux rôles de femmes mises face à face.
Ben alors, en fait, c'est pour rendre sympathique Scarlett. On avait interviewé il y a longtemps Molly Haskell, qui est une grande critique de cinéma américain, et elle nous avait expliqué que si Scarlett passe, entre guillemets, à l'écran, c'est parce qu'elle est entourée de personnages positifs. Donc elle a Mama, elle a Mélanie, elle a Rhett, elle a que des gens gentils autour d'elle, donc elle peut être une véritable peste finalement et plaire au public, et quand même avoir du capital sympathie. Donc ces personnages-là étaient là aussi pour porter celui de Scarlett.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire du rôle des hommes, Julia Kupervac, justement, autour d'elle, hein, plusieurs hommes justement sont ses prétendants autour d'elle, et elle en aime un autre, Ashley.
J'ai jamais compris, moi j'ai toujours été amoureuse de Rhett Butler, donc c'est vrai que choisir Ashley, j'ai jamais compris son choix. Après, c'est ce que j'aime chez Scarlett, c'est qu'en fait, les hommes sont pas là. C'est pas son premier combat. Le mariage, les hommes sont là pour justement l'aider à. Elle a de l'ambition. Elle veut regagner sa terre. Elle veut sauver son domaine. Et en fait, c'est ça. C'est Scarlett. C'est un des plus grands personnages féministes même du cinéma américain. On l'oublie, on le dit pas assez, mais
elle peut l'être parce qu'il y a le rôle de Mélanie, qui est un rôle beaucoup plus traditionnel.
Elle l'est grâce à Mélanie. C'est vrai que c'est Mélanie qui la rend, comme dit Clara, gentille. Et Mélanie est tellement douce, elle est tellement, elle lève jamais la voix, elle dit oui à tout, elle l'aime, alors qu'elle sait qu'elle aime le même homme qu'elle. Elle aime quand même Scarlett, qu'on voit Ashley comme pendant tout le film, et Mélanie lui pardonne. Et Mélanie est un personnage qui est exceptionnel dans le cinéma aussi, parce que elle a pas une once de méchanceté, une once. C'est déroutant même face à Scarlett qui est un monstre. Elle a pas une once de méchanceté et elle excuse et elle pardonne Scarlett pendant 3 heures de film, quoi.
Alors c'est l'occasion aussi de revenir, Christian Viviani, sur les studios, ce qu'est la Warner à l'époque. Hein, c'est une grosse production, autant on emporte le vent.
Mais c'est pas une production Warner.
Non, c'est pas une production Warner.
Parce que la Warner se caractérisait plutôt par des budgets relativement étroits. C'était un grand studio. Mais tout l'art de la Warner consistait à donner l'impression de pas être pauvre en faisant attention à toutes les dépenses. Et donc Olivier Davidland était enchaîné d'une certaine manière à la Warner dans les fameux contrats de 7 ans.
Ah oui, alors vous dites enchaîné. C'est pour une raison bien précise. Hein. Il faut expliquer ce qu'étaient les contrats. C'est-à-dire que les studios achetaient en réalité, signaient des acteurs.
Pendant une période. Qui était toujours une période de 7 ans. Et le fameux procès dont on a parlé déjà et dont on reparlera peut-être, c'était bien sûr pour avoir de meilleurs rôles, parce que les acteurs n'avaient pas le choix, en fait. Mais c'était aussi pour rompre ce carcan terriblement asservissant du contrat de 7 ans. Parce que si on refusait un rôle, ce qui est arrivé souvent à Olivia Davidland, on était suspendu. C'est-à-dire que pendant un certain temps, qui était décidé par les chefs de studio, vous n'étiez pas payé. Mais la période d'inactivité prolongeait le contrat de 7 ans.
Elle devait être rattrapée d'une certaine manière.
Voilà. Donc, évidemment, ceux qui étaient particulièrement rétifs se retrouvaient avec des contrats qui n'en finissaient jamais. Et on peut dire que le procès que Olivia Davidland a intenté à la Warner et qu'elle a remporté a mis définitivement fin à cette pratique, alors que Bette Davis, qui était la grande amie d'Olivia Davidland, avait fait un procès pour les mêmes raisons à peu près 7-8 ans auparavant,
en
1936-37, et elle avait raté.
Alors on va revenir sur, avant de revenir sur ce procès, revenir sur ces contraintes des contrats que faisaient les studios à ce moment-là. Clara Kupperberg, qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'influence de ces contrats, alors sur les rôles, mais aussi sur les représentations, puisque
Surtout en fait, parce qu'elles devenaient en fait des salariés, enfin pareil pour les acteurs, hein, ça devenait des salariés du studio, donc ils pouvaient pas négocier leur salaire, quand même, ils étaient quand même pas très bien payés par rapport à un acteur d'aujourd'hui, hein, parce que c'était quand même des petits salariés de studio. Elles pouvaient rien dire sur les rôles, pareil pour les acteurs, mais ils pouvaient pas refuser un rôle, parce que sinon, effectivement, ils étaient mis au placard. Ça décalait leur salaire, ça décalait leur contrat. Donc, et à un moment donné, vous étiez bien obligé de travailler.
Et ça durait très longtemps, du coup.
Ah bah, ça durait très longtemps. Et puis, bah, vous étiez obligé de vous plier à ce qu'on avait décidé pour vous dans le studio. Donc, bah, telle image. Donc, Bette Davis, c'était la garce. Voilà. Enfin, chaque actrice avait soit une image de femme fatale, soit la gentille fille. Ça. Et on vous collait une image comme ça, on vous façonnait. Parce que le studio avait le droit aussi de vous refaçonner, de vous apprendre à marcher, à parler, de vous opérer, de vous faire ce que vous voulez. On vient de finir un film sur Rita Hayworth, on lui a complètement reformaté le front, les cheveux. Enfin,
alors c'était le physique,
un produit quoi du studio.
C'était le physique, Julia Kupperberg, qui déterminait les représentations dans les rôles,
oui.
L'étiquette de la comédienne.
Pour les actrices, oui. Comme dit Clara, elle devait, par exemple, Rita Hayworth, c'était la femme fatale. Donc quand elle est arrivée à Hollywood, elle était hispanique. Ils lui ont enlevé toutes ses racines hispaniques justement. Ils l'ont blanchisée, comme on dit. Ils l'ont rendue rousse. Ils lui ont blanchi la peau. Ils lui ont enlevé son front. Ils lui ont enlevé des molaires. Ils lui ont enlevé les côtes. Enfin, et toutes les actrices passaient par ces moments de torture pour épouser le choix du producteur de l'époque qui voulait mettre sur cette actrice. Donc c'est vrai que ça a créé après. C'est terrifiant parce que vous aviez Marilyn Monroe, vous aviez Mélanie, vous aviez Scarlett, Viviani, et la seule qui a essayé de s'en sortir, c'est quand même Olivia de Havilland. C'est quand même elle, grâce à elle, c'est aujourd'hui les acteurs sont plus dans ce système-là, c'est grâce à elle quand même aujourd'hui.
Alors ça nous interroge sur la société américaine et les allers-retours avec le cinéma. Est-ce que c'est le cinéma qui impulsait finalement une image particulière de la société américaine, très stéréotypée, ou est-ce que finalement c'est l'inverse, c'était les attentes du public qui faisait que le cinéma...
Je crois que c'est le cinéma qui a façonné des images types auxquelles on a répondu pendant des années. Mais nous, les femmes, les premières, auxquelles on voulait ressembler, s'identifier. Mais qui a déterminé quand même des stéréotypes de beauté, de féminité, de sexualité. Parce que quand même, la femme était très sexualisée. Donc,
Alors, c'est aussi des années où le cinéma reste très inscrit, Christian Viviani, dans un puritanisme américain. C'est les années du code ICE. C'est aussi des années où il y a une grande normativité aussi du cinéma, de manière générale, américain.
Ah ben oui, ça s'abat sur Hollywood à partir de 1933. Et on ne plaisante plus avec ça, quoi. On peut voir en ce moment certains films qui ont été réalisés avant l'application du code, et la tonalité est extrêmement différente, et la représentation des femmes est aussi extrêmement différente. J'apporterai peut-être une petite nuance à ce que vous avez dit concernant le façonnage des images. Je pense que les premiers films avaient valeur de test, et on voyait un petit peu la réaction du public. Par exemple, dans le cas d'Olivia de Havilland, ce qui a été déclencheur, c'est évidemment Captain Blood. Et à partir de là, le studio prend la relève et va dans ce sens-là, dans le sens où le public l'a plébiscité. Et c'est évidemment très 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 difficile à supporter, parce que Olivia de Havilland n'aura de cesse que de secouer ce carcan.
Julie Kupperberg.
C'est vrai, mais on oublie souvent, c'est toujours la question, est-ce que c'est Hollywood qui a façonné ou est-ce que c'est le public? C'est aussi un certain public à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, je pense aux minorités, le public des minorités n'avait pas... Vous ne pouvez même pas entrer dans les cinémas, je pense au public noir et tout ça. Donc, forcément, ça plaisait à une audience plutôt des blancs. C'était les WASP à l'époque. C'était pour les WASP américains, soyons clairs. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que les actrices dès qu'elles avaient un peu d'ethnicité en elles, il fallait leur
le gommer.
Oui. Donc, c'est vrai que c'est toujours la question, est-ce que c'est Hollywood qui a façonné? Là, je dirais que plutôt, enfin, je resterai sur ça, c'est que ça devait répondre à un certain public de l'époque. On voit que ça change aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est intéressant.
Alors vous, Clara et Julia Kupperberg, vous avez consacré un grand nombre de documentaires à ces questions-là, d'Hollywood et des femmes. Alors, il y a eu « Et Hollywood créé à la femme » en 2009, il y a eu « Et la femme créée à Hollywood » en 2015 ou 16, et puis « Hollywood, pas de sexe, s'il vous plaît ». Toutes ces questions-là, justement, autour des allers-retours entre la société américaine et les femmes, elles vous ont particulièrement intéressé parce que il en a été autrement à une autre époque. Hein, oui. C'est ça aussi, c'est-à-dire que avant qu'Hollywood devienne Hollywood, c'est-à-dire avant
au tout début
le cinéma parlant.
Oui, quand Hollywood était rien en fait, quand Hollywood n'était pas considéré, c'est-à-dire que faire du cinéma c'était mal vu, c'était pas un art. Le cinéma, n'oublions pas que ça servait les films servaient quand même d'intermède dans les vaudevilles pour nettoyer la salle. Pendant qu'on nettoyait la salle du vaudeville, on passait un film. Donc, c'était pas de l'art. Et à ce moment-là, les femmes et les juifs, parce que qui étaient interdits de profession dite respectable, se sont retrouvés à Hollywood quand même. Et ont façonné ce qui n'était rien, en fait, ce qui n'avait pas de nom. Elles se sont retrouvées, ces femmes, à faire des choses qui ne portaient pas de nom. Scénaristes, productrices, réalisatrices. Et on s'est aperçu qu'à partir des années 10 jusqu'aux années, fin des années 20, il y avait plus de femmes réalisatrices, scénaristes, productrices à Hollywood qu'il n'y en aura jamais plus après.
Partout, en réalité, dans tous les postes.
Partout, à tous les postes.
Mieux payées.
Et mieux payées que les hommes. Alors qu'il ne faut pas oublier que le droit de vote arrive en 1920. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas le droit de vote. Elles n'ont même pas le droit de porter un pantalon. Elles n'ont pas le droit d'avoir de compte en banque. Mais elles arrivent sur des plateaux de cinéma et elles dirigent des équipes d'hommes et sont mieux payées qu'eux. Et ça, c'est incroyable quand même.
Et ça, c'est une histoire, Julia Kupperberg, qui est totalement passée sous silence.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Et là, dans ce cas précis, les vainqueurs ont été les hommes. L'histoire du cinéma a été écrite dans les années 40. Et toutes ces femmes ont été oubliées. Également aussi, parce que quand les hommes sont arrivés... Pourquoi les hommes sont arrivés dans les années 30 ? C'est parce qu'il y a la dépression. Donc les hommes perdent leur travail à l'Est et se rendent compte qu'une poignée de femmes ont fait beaucoup d'argent à l'Ouest et se disent, tiens, on va y aller et on va leur piquer leur job.
En gros, alors c'est très important ce que vous dites. Il y a une coïncidence entre le crack de 29, la Grande Dépression,
ça a plus
et l'arrivée du parlant, qui arrive exactement au même moment.
Tout à fait.
Donc l'industrie doit se restructurer, exactement. Cinématographique, autour du cinéma parlant. Et là, tout va changer.
Et là, tout change. Elles disparaissent, en fait. Hein. C'est très simple. Avant 1930, elles sont, je ne sais pas, une centaine, voire des milliers de femmes réalisatrices, scénaristes. Après, elles sont deux.
Alors, on va écouter un extrait de votre film, justement, Et la femme créée à Hollywood.
Somehow I met this man named Mark Wanamaker who owned the Bison Archives.
J'ai rencontré Mark Wanamaker, qui dirige Bison Archives, un fonds de vieilles photos d'Hollywood. Je suis allée à son studio et j'ai trouvé une boîte qui contenait un tas de photos sans légende de femmes travaillant sur les plateaux, jouant des rôles importants derrière la caméra. Mary Pickford, qui regarde dans l'œilleton de la caméra, Dorothy Arzner, Margaret Booth. Beaucoup de ces visages étaient inconnus de Mark. Les photos ne portaient aucun nom. J'ai dit à Mark, qui sont toutes ces femmes ? Oh, vous savez, il y avait plus de femmes productrices et réalisatrices avant 1920 que dans toute l'histoire du cinéma. À l'époque, je voulais faire une école de cinéma et je prenais des cours, mais personne, aucun de mes professeurs ne m'avait parlé de ça. Ces femmes ne figuraient dans aucun de nos livres. Pourquoi ? Parce que ces livres relataient l'histoire d'Hollywood, écrite dans les années 40, par des hommes qui ne savaient rien de ces femmes. L'histoire est écrite par les vainqueurs.
On entend Clara Kupperberg, justement, c'est Ali Hacker qu'on
Ali
entend
Ali Hacker, tout à fait, tout à fait.
Vous racontez cette sorte d'âge d'or des femmes au cinéma hollywoodien, avant que ce soit vraiment le cinéma hollywoodien tel qu'on le connaît.
Bah oui, parce que cette femme, comme elle le raconte, elle a découvert cette histoire par le plus grand des hasards, un petit peu comme nous aussi, parce que cette histoire ne nous est pas enseignée. Nous, on a fait des facs de cinéma, on a fait beaucoup de films sur le cinéma, et quand même, on n'avait jamais croisé leur nom à ces femmes, des femmes comme Lois Weber, Frances Marion, Dorothy Arzner. C'est des femmes qui aujourd'hui sont oubliées, ma belle Normand.
Et elle est Guy Blaché, donc
Alice Guy Blaché, la française quand même,
qui aurait fait du
le
parlant
film
avant Méliès, justement, qui aurait fait le premier film.
Oui, le premier film en fait qu'on appelle narratif, c'est-à-dire qui raconte une histoire, a été fait par Alice Guy Blaché. Il s'appelle La Fée aux Choux en 1896. Donc quand même, on a on peut revendiquer en France d'avoir fait le premier film narratif et que ce soit une femme. C'est ça qui est quand même incroyable et ce n'est pas enseigné. Et cette femme, quand même, à l'époque,
personne n'y croyait. Elle est allée voir Gaumont, elle était la secrétaire de Gaumont. Elle était voir Gaumont, elle lui a dit « Est-ce que je peux utiliser les caméras pour faire autre chose que ce qu'on en fait, des reportages, voilà. »
Des scènes de vie.
Des scènes de vie, voilà. Et il lui a dit « Oui, bah, fais ce que tu veux, ce n'est qu'un jouet finalement. » Et bah, elle a pris le jouet et elle a fait le premier film narratif de l'histoire du cinéma.
Alors du coup, votre film est aussi un hommage à ces pionnières. C'est ce qu'on peut appeler la première vague de femmes cinéastes.
Oui. Ah, c'est vraiment. Bah oui, l'idée était aussi, on le dit souvent, mais elles ont été enfouies sous le tapis rouge, hein, pendant un siècle. L'idée était de les sortir, de les mettre dans la lumière, parce que premier film parlant, les premiers effets spéciaux, Clara parlait d'Alice Guy Blacher, elle réalise un film en 1906, qui s'appelle Les résultats du féminisme, qui est dingue, qui est sur YouTube, hein, qu'on peut regarder, tout le monde peut aller le regarder. J'invite tout le monde à le regarder d'ailleurs, parce que c'est hilarant, ou à l'inverse, les rôles. Donc les femmes sont habillées en hommes et les hommes sont habillés en femmes. Et il y a des hommes des femmes mettent la main aux fesses aux hommes. Et en fait, c'est une dénonciation, de comment les femmes sont traitées à ce moment-là en 1906. Et c'était des films, en plus, pas de femmes, ce qu'on appelle les films de femmes, c'était pas des histoires d'amour, c'était des films hyper engagés contre l'homophobie, contre l'antisémitisme.
Contre l'avortement. Louise Weber est la première quand même à faire des films contre l'antisémitisme, pour l'avortement. Des films sociaux aussi qui dénoncent la pauvreté. Elle est la première même à mettre une femme nue à l'écran, puisque ça a fait une révolution aux États-Unis.
Ouais, elle parlait de prostitution aussi. Parler de prostitution pour les femmes, pour qu'elles puissent survivre, parce qu'elles pouvaient pas travailler. Donc, c'est vrai que c'était des femmes qui étaient super engagées.
Alors, est-ce que ça vient de la structure même industrielle de ce cinéma-là, qui est finalement presque informelle, en tout cas une industrie assez informelle. D'ailleurs, tous les postes, les métiers, c'est ce que vous expliquez dans votre film, n'avaient pas de nom précis.
Non.
On a le sentiment que tout le monde pouvait faire un peu tout.
Et c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait un petit peu de tout, en fait, parce que ça n'avait pas de nom. C'était un peu. Il y en a une qui compare ça au début d'Internet. Mais c'est vrai, c'était nouveau, en fait. Tout s'inventait. Les effets spéciaux, les cadrages, le langage cinématographique s'est inventé à ce moment-là. Donc elles se sont permises des choses super innovante. Par exemple, je pense à Dorothy Asner, mais elle voulait prendre le son au milieu du plateau. Elle s'est dit, comment je fais pour aller capturer le son à l'autre bout du plateau? Elle a pris une canne à pêche, elle a pris un micro et elle l'a balancé. Elle a inventé ce qu'on appelle la perche. Voilà. Par exemple, Louise Weber a inventé ce qu'on appelle le split screen, c'est-à-dire voir plusieurs actions dans l'écran. Voilà. Donc, elle innovait, elle teintait les pellicules pour donner des tons, parce qu'il n'y avait pas de couleur à l'époque. Donc, on teintait la pellicule pour dire, là, c'est une scène d'amour, là, c'est une scène de nuit. Enfin, voilà, tout ça.
Ce que vous décrivez aussi, Christian Viviani, c'était un cinéma aussi un peu de briques et de brocs à certains moments. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que des gens à l'extérieur, il y a une allusion aux cow-boys, etc., pouvaient être intégrés dans le film. L'arrivée d'un cinéma beaucoup plus structuré hollywoodien, d'une industrie organisée, d'un commerce juteux, va exclure les femmes. Elles vont devenir simplement les actrices.
Oui. À mon sens, le grand chambardement, c'est l'arrivée du parlant, qui permet aux dirigeants de studio de reprendre toute la situation en main.
On se demande pourquoi, parce qu'elles sont dotées de la parole, elles aussi.
Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait évidemment le fait des femmes qui avaient une importance remarquable, mais ce fait s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui était l'importance des acteurs. Justement, n'était pas encore soumis à ces contrats draconiens et qui très souvent tenaient les cordes de la bourse, hein, que ce soit Douglas Fairbanks ou autre, c'était des gens qui dictaient leur volonté. Et tous ces gens-là, par l'arrivée du parlant, avaient-ils la voix qui allait leur permettre de continuer une carrière? Ils étaient extrêmement fragilisés et les grands dirigeants de studio ont profité de ce sentiment de vulnérabilité pour reprendre tout en main. Et on est arrivé au système qui va durer jusqu'à la fin des années 50, début des années 60.
Alors, et même au-delà, peut-être on peut parler, donc au moment du procès, hein, Bette Davis qui échoue, puis Olivia Davilland qui, elle, remporte son procès. D'ailleurs, elle quitte les plateaux de cinéma pendant toute une période, Clara Kupperberg.
Bah oui, parce qu'elle refuse les rôles qu'on lui donne, donc elle se retire du cinéma.
Et puis la Warner essaie quand même de dissuader ses adversaires aussi.
Ah bah oui, il la boycotte en fait. Il passe un mot, Jack Warner, qui était terrible hein, quand même, qui est un mogul de cinéma, mais comme tous, hein, c'est pas des enfants de cœur. Parce qu'effectivement, ils sont arrivés dans les années 30, parce qu'il faut rappeler aussi qu'avant à Hollywood, il y avait plein de sociétés de production. Les acteurs avaient le pouvoir de Douglas Fairbanks, Mary Pickford, voilà. Chaplin, ils avaient tous leur société de production. Ça, c'est vraiment important parce que...
Ils avaient le pouvoir économique.
C'est-à-dire qu'ils avaient leur studio, donc ils étaient dépendants d'un grand studio pour la distribution, mais économiquement, ils avaient quand même vachement de liberté. Et ça, en fait, avec la dépression, tous les petits studios se sont regroupés, ont fusionné, soit ont fait faillite, soit ont été regroupés dans ce qu'on appelle les five big studios, enfin voilà, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, MGM, Fox, Warner, etc. Donc quand ces hommes-là ont pris le pouvoir des studios, ils avaient tout pouvoir sur ces acteurs à ce moment-là. Donc Olivia de Havilland, elle a été mise au placard, en punition, et Jack Warner, qui avait tout pouvoir sur elle, a passé le mot à tous ses copains des autres studios en disant ne l'engagez pas. Donc elle s'est retrouvée quand même pendant 2 ans punie à pas pouvoir tourner parce qu'elle ne voulait pas céder.
Sauf que l'affaire s'est jouée finement puisque finalement elle en profite pour apporter son soutien aux troupes américaines, pour montrer son patriotisme, Julia Kupperberg, et finalement elle va gagner son procès et là il va y avoir un revirement. Du côté des studios aussi.
Bah, elle gagne son procès, donc du coup, voilà. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'après, elle choisit ses rôles, donc elle prend des rôles plus noirs.
Oui, parce qu'Hollywood est toujours du côté du public, donc elle est réintégrée.
Oui, elle est réintégrée et elle choisit ses rôles, donc elle va faire des rôles qui sont plus noirs ou elle est plus ambiguë. Donc c'est vrai que la gentille Mélanie, maintenant, est morte.
Alors, on va écouter un autre extrait, ça sera L'héritière de William Wyler.
Morris Townsend did not love you, Catherine.
I know that now, thanks to you.
Better to know it now than 20 years hence.
Why? I lived with you for 20 years before I found out you didn't love me. I don't know that Morris would have hurt me or starved me for affection more than you did. Since you couldn't love me, you should have let someone else try.
You have found a tongue at last, Kathleen. It is only to say such terrible things to me.
Yes, this is a field where you will not compare me to my mother.
Should I have let him ruin your life? You'll find some honest, decent man someday. You have many fine qualities.
And 30,000 a year.
Yes, that should make it possible for you to choose with discretion.
If I am to buy a man, I would prefer buying Morris.
Don't say such things. You know him to be a scoundrel.
I love him. Does that humiliate you?
Catherine, promise me you are done with him.
I won't promise.
Then I must alter my will.
You should. You should do it immediately.
Alors Olivia de Havilland qui joue le rôle de Catherine Sloper, on peut peut-être dire Julia Kupperberg qui a une évolution dans ce personnage. Alors c'est à la fois une femme d'une trentaine d'années, un peu vieille fille qui tombe amoureuse, et puis il y a ce début du film où elle est extrêmement soumise au père, personnage très naïf tel que ses anciens rôles hollywoodiens, et puis il y a une évolution au cours même du film où cette scène-là, elle s'oppose au père.
Clara, je te laisse, parce que je sais que tu adores ce film.
Bah non. Clara Kupperberg.
Non, mais c'est intéressant parce que, comme vous le disiez, tout d'un coup, elle peut changer de registre. C'est-à-dire que
là où
au sein même du film, ouais. Donc c'est intéressant parce qu'on a un peu Mélanie qui tout d'un coup va évoluer, quoi. Et ça, elle a pu le faire parce qu'elle avait gagné. Aucune autre actrice, finalement, si vous prenez les autres actrices, il y en a pas beaucoup qui ont réussi ce tournant d'avoir des rôles intéressant et quand même un peu plus sombre. Soit elle l'était dès le départ, comme Bette Davis par exemple, ou même Joan Crawford, mais rarement elles ont eu l'occasion de switcher comme ça de leur image. Ça, c'était quand même rarissime. C'était quelque chose qu'elles pouvaient pas faire.
Alors, est-ce qu'elle est tombée au bon moment, Olivia de Havilland? Est-ce que son combat personnel a trouvé des échos? Parce qu'elle était là aussi à une période de transition de la société américaine. Elle a gagné son procès. Alors certes, elle est allée chercher une vieille loi qui lui permettait de dire qu'on n'avait pas le droit de prolonger les contrats de travail au-delà de 7 ans.
Probablement, oui, l'époque était favorable parce que la fin de la guerre, c'est aussi l'avènement de nouveaux médias, de la télévision, etc. Les studios sont beaucoup plus vulnérables qu'ils ne l'étaient. Et la situation n'est pas la même que lors du procès de Bette Davis. L'intelligence de Olivia de Havilland, c'est qu'elle a utilisé l'image de gentille qu'on avait fabriquée d'elle pour reprendre cette image et la nuancer de manière différente dans les films. Par exemple, par La Porte d'Or, par exemple, elle est une vieille fille en puissance, et le personnage est particulièrement attachant. Et c'est ce qu'elle fait aussi dans L'Héritière, en fait. C'est qu'au départ, c'est Mélanie, et à l'arrivée, c'est autre chose. Elle va, et il y a un phénomène très intéressant, c'est que dans cette période de 5 ans, qui est une période de liberté pendant laquelle elle va tourner ses rôles les plus marquants, La Fosse aux Serpents, L'Héritière, etc.
Entre la fin des années 40 et le début des années
50. Voilà, 45-50, grosso modo, hein, je simplifie. Elle va tourner un film qui est extrêmement révélateur, c'est la double énigme de Siodmak, parce qu'elle joue des jumelles, la gentille et la méchante.
Cette dualité se retrouve effectivement dans son parcours. Alors vous, les sœurs Kupperberg, dans votre autre documentaire « Et Hollywood crée à la femme », vous êtes intéressée au chick film. Alors c'est aussi voilà ce genre cinématographique qui était dit « fait pour les femmes », « genre pour les femmes ». Julia Kupperberg, vous disiez tout à l'heure que tout le monde n'allait pas au cinéma à l'époque.
Non.
C'était essentiellement des femmes qui allaient au cinéma.
Oui, donc dans les années 30, on les appelait les « whippies », ces films. Ça s'appelle les pleurnicheries, en fait, pour être
à l'eau de rose.
Grosso modo, ouais. Et donc, c'était des histoires d'amour, à l'eau de rose et tout. Bon. Les chick flicks arrivent dans les années plus tard, dans les années 80. C'est Meg Ryan, c'est Pretty Woman, c'est toutes les comédies romantiques où la femme attend, en fait, le coup de fil d'un homme pendant 2 heures. Alors là, on s'est dit, c'est marrant parce que dans l'âge d'or hollywoodien, elles étaient fortes quand même, ce rôle des femmes, les whippies. Dans les whippies, les femmes étaient fortes quand même. Elles n'attendaient pas le coup de fil d'un homme pendant 2 heures. Alors oui, elles étaient dans des relations amoureuses et c'était ce qui les animait, c'était l'amour et le mariage. Mais ça, c'était pas aussi lisse et aussi niais, en fait, même si j'adore ces films, hein, dans les années 80 aussi, alors au moment où justement il n'y a plus de code de censure, où la révolution féministe est là.
C'est la deuxième vague en réalité.
C'est la deuxième vague,
pionnière.
Bah oui. Et alors c'est incompréhensible parce que justement elles sont plus dans des carcans. Justement elles peuvent justement être libérées et avoir tous les rôles qu'elles veulent. Et on les met encore dans des rôles où elles pleurnichent, elles attendent un homme avec un truc de glace. Donc on se dit, on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dans les années 30, 40 elles étaient plus fortes, elles avaient des personnages plus ambigus, plus masculines presque. Et dans les années 80 elles redeviennent nunuches. Alors que j'adore, je continue à dire que j'adore ces films et que je les ai tous vus, évidemment.
Alors, des nunuches, mais il y a aussi un peu des pin-up. Il y a les deux figures que l'on trouve quand même entre les années 70 et les années 80. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une évolution à l'image. Vous faites allusion à Pretty Woman, etc. Mais c'est des rôles très sexualisés aussi.
De toute façon, la femme est toujours sexualisée à Hollywood de toute façon. On a fait un documentaire sur Hollywood, pas de sexe, s'il vous plaît. Justement, sur, après la révolution féministe, après justement tout ça, qu'est-ce qui se passe pour la femme brûle le soutien-gorge, mais elle disparaît des écrans. Ou alors, la sexualité passe par la violence. Donc ça passe par les viols, ça passe par du désastre, par des trucs dramatiques, et elle peut jamais avoir un orgasme simple, normal, sans que ça se passe, sans que 10 hommes essayent de la violer. Donc on s'est dit, on s'est demandé ça aussi, enfin, c'est toujours, le cinéma américain, c'est ce qui nous plaît, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté, on peut jamais... Vous êtes toujours baladé. On pense que c'est le droit des femmes est acquis. Et en fait, vous avez un film qui vous montre complètement l'inverse après. Donc, c'est ce qu'on aime d'ailleurs dans ce cinéma-là.
On va passer à un extrait de ce film, Et Hollywood crée la femme. C'est un extrait avec Kali Khoury.
Ah oui.
Une des choses qui m'intéresse le plus en tant que scénariste, c'est de prendre un stéréotype pour en faire un vrai personnage. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce film. Je voulais montrer deux personnes qui découvrent qui elles sont réellement et qu'elles n'auraient jamais découvert autrement. Mais les femmes qu'elles sont devenues n'ont plus leur place dans ce monde. Elles savent qu'elles ne pourront plus y vivre, vu la façon dont elles ont évolué. Elles n'ont plus aucune limite. Elles sont devenues totalement incontrôlables.
You're getting in deeper every moment you're gone.
Les hommes s'entretuent souvent au cinéma. C'est même ce qu'ils font le plus dans les films. Il n'y avait donc rien de révolutionnaire là-dedans. Ce qui changeait, c'était qu'une femme tenait le flingue et qu'elle le faisait pour elle, pas au nom de je ne sais quelle justice extérieure. Si les gens disent que c'est un film féministe, de ce point de vue-là, ça me convient.
Boys, shoot the radio. The police radio, Louis.
C'est toujours très difficile aujourd'hui de proposer un personnage de femme qui sorte des stéréotypes en vigueur depuis une trentaine d'années. C'est comme si la révolution féministe avait donné des personnages de plus en plus faibles à l'écran, ou de plus en plus stéréotypés, et pas dans le bon sens.
Kelly Khoury, qui est la réalisatrice de Thelma et Louise, Clara Kupperberg, justement, qu'est-ce que on peut dire de cette révolution à la fois pour les femmes réalisatrices, hein, ce regard qu'elles vont poser elles-mêmes sur des personnages féminins, et puis cette arrivée d'un autre genre de film avec Thelma et Louise notamment.
Alors Thelma et Louise, elle est scénariste, Kelly Khoury, et c'est marrant parce que dans ces années-là, dans les années 80-90, on voit des films faits par des hommes avec des personnages féminins très stéréotypé, mais très fort, comme Thelma et Louise, vous avez Alien, vous avez Terminator, où le personnage principal est un personnage de femme et de femme forte. Mais à côté de ça, il y a ces films-là, et en parallèle, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les chick flicks, donc les comédies romantiques. Mais ces films, à cette époque-là, dans les années 80, il y a la deuxième vague de pionnières. C'est-à-dire qu'il y a aussi la génération de femmes qui a pu aller à l'université, qui a pu faire des études de cinéma dans les années 70, et qui se retrouvent derrière la caméra.
Mais il y en a quand même très peu.
Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y a Sherry Lansing qui devient la première patronne de studio à la Fox, qui après sera à la Paramount. Mais il y en a qu'une à cette époque-là. Et il y a quelques femmes réalisatrices, mais il y en a très peu quand même par rapport à ce qu'il y a pu y avoir 50 ans avant. Donc il y a cette deuxième vague de pionnières, de scénaristes comme Kelly Khoury, comme Robin Swicord, toutes ces femmes qui vont prendre le devant du cinéma, mais qui en même temps vont être extrêmement minoritaires. Et ça, finalement, ça n'a pas changé. C'est ça quand même qui est assez impressionnant. C'est que quand on regarde les chiffres de cette époque-là et aujourd'hui, finalement, aujourd'hui, on est quoi? On est à 8-9% de femmes réalisatrices aux États-Unis. Je parle de blockbusters, hein, de films grand public. Parce qu'il y en a, on en retrouve un petit peu plus dans le cinéma indépendant. On est à 20%, mais c'est pas beaucoup, non plus mirobolant, quoi. Ouais. Mais dans un film grand public, un blockbuster, on dépasse pas les 8-9%. Et encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, la seule femme qui a jamais gagné un Oscar, qui est Catherine Bigelow, il y a une femme donc dans l'histoire du cinéma américain qui a gagné un Oscar pour la meilleure réalisation.
Christian Viviani, c'est vrai que c'est assez déconcertant de voir la manière dont les choses ont peu évolué. Qu'est-ce qu'on peut dire des rôles de femmes par rapport aux rôles d'hommes, justement des comédiens, enfin des acteurs, hommes et femmes à ce moment-là? Il y a toute une discussion dans les films des sœurs Kupperberg sur le moment d'apparition du héros masculin qui doit nécessairement apparaître en premier, c'est même négocié dans les contrats.
Peut-être, vous devez le savoir peut-être mieux que moi, vous avez peut-être fait des recherches dans ce sens-là, mais moi je parlerai pas de d'évolution, je parlerai carrément de régression. C'est vraiment assez frappant parce que même dans
alors qu'il y avait eu des luttes, il y a eu des combats pour l'égalité salariale, il y avait eu des combats menés.
Oui, mais néanmoins, je trouve qu'il y a une régression des actrices comme Nicole Kidman ou Charlize Theron sont obligées de se créer une image par la publicité, mais plus par le cinéma en fait. Et il y a également une régression dans le fait que dans les années 40-45, les années de guerre, les femmes ont les rôles principaux, elles ont des rôles très très forts, même si ce sont des films qui sont organisés par des équipes essentiellement masculines, parce que ces films sont faits pour un public féminin, parce que les hommes sont à la guerre, ils sont au front, et donc...
Donc il y a une évolution du côté des spectateurs aussi, c'est une sorte d'adaptation au public?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est difficile de savoir est-ce que ça correspond à une évolution du public, ou est-ce que le public subit l'idée que les producteurs se font En tout cas, de lui. Moi, je pense ça a toujours été le gros problème du cinéma, hein, c'est-à-dire que les gens.
Les cordons de la bourse, surtout, non.
Voilà,
c'est l'argent.
Ceux qui tiennent les cordons de la bourse sont toujours persuadés de connaître la psychologie du public. Or, si on relit toute l'histoire du cinéma, on s'aperçoit qu'on ne la connaît jamais. Et qu'on est toujours dans un domaine où les surprises caracolent.
Julia Kuperbeck,
c'est... Oui, c'est vrai. En même temps aussi, on nous demande toujours Hollywood a fait ci, Hollywood a fait ça, Hollywood a rendu telle actrice. Mais c'est qui Hollywood en fait ? Enfin, ça c'est une question aussi. Enfin, c'est idiot, mais c'est qui ? Ce sont des hommes ? C'est idiot à dire
oui,
aussi.
Oui, on a
mais...
dit qu'il n'y avait qu'un contre-exemple.
Bah oui, mais regardez
studio, mais pourquoi est-ce que ça a été si inaccessible, ces studios-là ?
Regarde juste comment la femme est objectifiée depuis toujours. Enfin, prenez les viols dans les films. Enfin, moi, je ne connais pas une femme qui aime se faire violer. Et on montre, qu'est-ce qu'on montre dans les films américains, hein. Je précise que c'est surtout dans le cinéma hollywoodien des années 70. Une femme que quand elle dit non lors d'un viol, elle pense oui. Ça vient de fantasmes doux. Ça tombe pas comme ça de nulle part, c'est des fantasmes qui sont masculins, qui sont dans une culture populaire, et voilà. Et c'est pour ça que la femme aujourd'hui, on en est là encore aujourd'hui, que même après MeToo, même si on en parle, il y a aucune progression. On est toujours à 9%. Alors on en parle, tant mieux, on en parle. Mais moi, depuis MeToo, c'est quoi, 2000
Il y a deux ans, oui.
Bah, il y a pas un changement, quoi.
Non, ça a juste obligé quand même à en parler, et donc ça oblige quand même aussi, par exemple, je pense au festival, à avoir une certaine parité, enfin en tout cas à se dire qu'il faut quand même mettre des films de réalisatrices.
Surtout qu'elles sont à l'université, elles sont 50% de femmes, de jeunes filles sont veulent réalisatrices. Donc après elles disparaissent.
Et oui.
Qu'est-ce qui se passe ? Alors elles vont où ? Parce que c'est
ni dans le cinéma indépendant ni dans le cinéma blockbuster.
Mais on les oriente ailleurs.
Alors, est-ce que c'est la même chose aux États-Unis et ailleurs ? Est-ce qu'il y a une marque américaine ? Est-ce que l'enjeu, il est financier ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des enjeux financiers que les hommes...
Les femmes qu'on a interviewées, Linda Hobbs, qui est une grande productrice, Robin Swicord, scénariste oscarisée, toutes, elles nous disent que de toute façon, à partir du moment où c'est un gros film, avec de l'argent, on ne le confie pas à une femme.
Oui, on a dit la même chose Parlant. Pendant le parlant, les femmes pouvaient parler aussi, et pourtant, elles ont disparu et elles savaient parler. Hein. On savait parler en 1930. Et l'argent, aussi le gérer aujourd'hui, donc c'est absurde. Il n'y a pas de...
Non, mais c'est quand même une réalité.
Et pour Olivia de...
Il y a quand même une exception notable, mais justement parce que c'est une exception, c'est Wonder Woman.
Oui, qui est formidable.
Absolument.
Oui.
Et d'ailleurs, Patty Jenkins.
Ah, mais complètement.
Ça a été la première fois où un blockbuster de cette taille et de ce budget a été confié à une femme et avec des résultats impressionnants.
Oui.
J'avoue que j'attends avec énormément de curiosité le deuxième volet.
Nous aussi, on parlait de jury du festival. Olivia de Havilland, elle a été justement présidente du Festival de Cannes, mais il a fallu attendre 1965.
Olivia de Havilland, Madame la Présidente, devrais-je dire. Souvent, les comédiens aiment passer derrière la caméra et devenir metteurs en scène. Il leur arrive aussi parfois de faire partie d'un jury, comme vous ici à Cannes. Connaissant, vous, les difficultés du métier, cela risque de vous influencer et de vous faire voir uniquement le travail qui a été fait davantage que le résultat.
Oh, il me semble qu'en juge, je suis bon public. Et je juge un film comme une œuvre d'art, plutôt comme les spectateurs assez sensibles, expérimentés.
Vous ne risquez pas de vous souvenir trop que vous avez été, que vous êtes toujours une grande vedette d'Hollywood pour juger, par exemple, mieux les films américains que les autres.
Vous essayez de m'attraper, monsieur. J'essaierai, comme sur tous les plans de la vie, de rester, qu'est-ce que l'on peut dire,
objectif
et de faire des jugements d'équité.
Clara Kuperbeck, je voyais sourire hein, de la manière dont elle ne se laisse pas piéger par le journaliste.
Elle ne se laisse pas faire. Hein.
Dans un français d'ailleurs
impeccable.
Impeccable. Elle s'est installée en France. Hein,
elle avait épousé en fait un français.
Elle a passé la deuxième partie de sa vie en France. C'était aussi des carrières très circonscrites dans le temps. Carrière d'actrice, elle se retire assez vite.
Oui, ça n'a pas beaucoup changé, hein, j'ai envie de dire. Parce que vous parliez de Charlize Theron et de Nicole Kidman tout à l'heure. Aujourd'hui, ben voilà, heureusement, elles ont la télévision, enfin les plateformes, pour évoluer. Mais au cinéma, quelle femme dépasse 50 ans avec un rôle principal ?
Alors, est-ce que c'est
à part Meryl Streep, quoi.
Je pense que même elle aussi doit avoir des problèmes.
Ouais,
on ne fait pas un blockbuster avec Meryl Streep.
Non.
Voilà.
Mais on en fait un avec Tom Hanks, par exemple.
Oui. Pourtant, une des plus grandes comédiennes du monde.
Oui.
Tout sexe confondu.
Alors, cette question, justement, vous dites tout sexe confondu, l'idée de faire peut-être d'écrire des scénarios sans trop se soucier du genre, en tout cas en ce qui concerne le personnage. Est-ce qu'il y a une différence américaine et européenne sur ces questions-là, notable ou pas, Clara ou Julia Kupperberg?
Bah, aux États-Unis, je vais parler aussi des minorités, par exemple pour les rôles noirs, pour les noirs ou pour les hispaniques ou pour même les asiatiques. Maintenant, Hollywood est beaucoup plus en avance que nous sur ces questions. Moi, je dis ça en avance. D'autres vont dire que c'est régressif. Moi, je trouve que ils sont beaucoup plus en avance, sont beaucoup plus ouverts sur ces questions.
Sur le fait que
les minorités,
les rôles ne soient pas non plus nécessairement liés à l'origine ni au genre, à l'origine communautaire.
On a vu avec le Crazy Rich Asian, le film où c'est qu'un casting asiatique, où il ne joue pas le rôle d'asiatique. Voilà, il joue, c'est une comédie romantique, d'une nuche parfaite, comme on avait dans les années 80, mais avec que des Asiatiques, un casting entièrement asiatique. Et ça, c'est le premier film, je crois, quand même, où il n'y a pas de stéréotypes, ils sont pas stéréotypés, c'est pas le nerd ou le geek. Voilà, on a la même chose pour les Noirs avec Black Panther. Voilà, donc maintenant, ça cartonne. Donc, c'est là où on se dit que peut-être ça va continuer. Hollywood, hein, dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, ils s'engouffrent dedans, donc donc, tant mieux, ça marche, parce que, comme je disais au début de l'émission, c'est maintenant l'audience n'est plus que blanche. L'audience est aussi noire, asiatique, hispanique. Et là, tout d'un coup, il y a une force maintenant, par les réseaux sociaux aussi, où ils disent que ça suffit maintenant de voir toujours les mêmes rôles pour les mêmes personnes.
Et les arguments économiques, là, on peut voir qu'ils ont pu être aussi des prétextes pour véhiculer un certain modèle. On parlait de puritanisme, on parle d'imaginaire politique aussi, Clara Kupperberg.
Oui, bien sûr, mais c'est ce qui a permis au cinéma d'être raciste, en fait, de ne pas mettre de noirs ou de ne pas mettre de minorités.
Ou de minoriser, banaliser l'esclavage.
Absolument, non mais absolument, parce qu'on avait ce prétexte que ça n'allait pas plaire au public du Sud, c'était toujours, l'argument aux États-Unis était toujours que le public des salles du Sud, des États du Sud n'allait pas venir. Donc, ça légitimait de faire des films, sans aucune représentation des minorités. Enfin, voilà, des films qu'on peut quand même qualifier de racistes souvent, quoi.
Est-ce qu'on observe la même chose, Christian Viviani, entre les séries américaines
C'est justement ce que j'allais vous dire. Je pense
et la télévision.
Oui, je pense que les séries et la télévision sont en avance par rapport au cinéma, que le cinéma n'a pas encore percuté là. On a un cas qui est pour moi frappant, l'élection d'Obama. Elle arrive après toute une série, notamment de séries télévisées, 24 heures, etc., où les présidents étaient des Noirs ou des Latinos. Qui en France oserait faire une fiction avec un beurre à la place du président? Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Je pense que cette préparation du public a beaucoup compté dans l'élection d'Obama. Donc il y a vraiment quelque chose que le cinéma n'a pas encore percuté, et je pense que le cinéma doit être plus à l'écoute de la télévision et des séries pour évoluer, que ce soit dans la représentation des minorités ou dans la représentation des femmes. Hein, parce qu'on voit par exemple Nicole Kidman ou Reese Witherspoon ou Meryl Streep qui d'une certaine façon se prennent en main et créent les rôles et les séries où elles veulent jouer.
Alors
qu'elles peuvent pas le faire au cinéma.
Et elles le font bien en plus parce que leurs séries sont formidables. Elles le font bien parce que leurs séries sont formidables.
Mais bien sûr.
Le Morning Show, qui est la série qu'elles ont créée cette année.
Qui est génial,
Qui est génial.
Enfin. Alors, est-ce que c'est le cinéma qui est structurellement plus conservateur ou est-ce que tout simplement il y a eu un flot de nouveaux scénaristes, nouveaux réalisateurs, nouveaux comédiens qui sont arrivés aussi dans les séries et qui ont pu s'engouffrer dans un monde qui était moins codifié que le vieil Hollywood d'une certaine manière?
Oui, sûrement. Et puis, de toute façon, l'innovation de la télé, elle a commencé il y a longtemps quand même. Parce que déjà dans les années 90, 2000, les séries ont toujours été en avance, même sur la représentation des femmes.
Non, mais oui, parce que je pense à un truc. Mais oui, en fait, le cinéma hollywoodien, n'oublions pas qu'il doit plaire à En Asie, en Russie, en France,
à tous les âges. Si possible, à partir de l'âge de 10 ans.
Voilà, exactement. 7
ans à 77 ans.
Donc, c'est même pas lisse à ce niveau-là, quoi. C'est
uniformisé.
C'est uniformisé. La télé a beaucoup plus de liberté, heureusement.
Et surtout, les chaînes payantes. Ça a commencé
par
là, les chaînes payantes.
Des plateformes aussi.
Les HBO, tout ça. Et puis Showtime. Et maintenant, ce sont les plateformes qui peuvent être extrêmement ciblées. Ouais. Et qui le sont d'ailleurs. Et ça marche.
Et qui sont ciblées, qui permettent aussi des nouveaux formats.
Bien
on
sûr.
A vu Cronenberg, etc. Sur Netflix. Donc ça nous rend un peu plus optimistes.
Oui, et puis tous les réalisateurs dits classiques, quand même, vont vers les plateformes en plus. Sont attirés quand même par cette nouvelle liberté.
Voilà, moi je pense que le cinéma est encore persuadé que le seul public possible est un public d'ados.
Oui.
Et il n'a pas suffisamment le courage d'essayer d'aller chercher un autre public. En fait, il préfère jouer toujours sur le public d'ados. C'est pour ça que bon, moi, un film comme Wonder Woman, c'est l'ovni, quoi.
Merci à tous les trois d'avoir été là parmi nous. Clara et Julia Kupperberg, je rappelle qu'il y a un coffret avec 10 de vos documentaires qui est paru aux éditions Montparnasse et un nouveau documentaire à venir sur Itowers cet hiver. Christian Viviani, je renvoie nos auditeurs à la lecture de Positif avec un numéro d'été sur Black Edwards. Tout de suite, c'est la fiction Imagine le monde de demain de France Culture avec la SACD en partenariat avec le Théâtre de la Ville en soutien à la création et aux auteurs. Aujourd'hui, Bel Esprit.
Bel Esprit, une fiction écrite par Fabrice Collin.
Bon. Est-ce que je pourrais enfin savoir ce dont il s'agit? Ah, je veux dire, je suis heureux de vous avoir tous les trois à table, ça c'est clair. Mais je suis pas idiot. Je me doute bien que vous n'êtes pas venu uniquement pour me souhaiter un joyeux anniversaire.
Mais tu sais de quoi il s'agit, papa.
On est obligé d'en parler maintenant.
On est obligé de rien du tout, petit frère. Mais papa a raison. Inutile de tourner autour du pot. Le fait est, mon cher père, que tu vas avoir 80 ans.
Et
ben, c'est tout. Nous sommes ravis. T'as l'air en pleine forme.
Quelque chose vous chagrine.
Maman, je t'en prie. Nous ne sommes pas chagrinés, comme tu dis, en aucun cas. Nous formons une famille. Une belle et solide famille en des temps plus qu'incertains. Reste que les lois sont les lois. Et il me semble que faire l'économie de cette discussion, papa, alors que comme tu le soulignes, nous avons la chance d'être aujourd'hui rassemblés, serait une erreur. Ce serait dommage d'insulter l'avenir.
L'avenir ? Est-ce que tu pourrais préciser ?
Papa, on sait tous de quoi parle Cléo.
Peut-être, mais je voudrais le lui entendre dire.
Et moi, je voudrais savoir si quelqu'un va reprendre des algues au sésame.
Non, merci. Fort bien, je suppose que c'est à moi d'ouvrir le bal. Logique, n'est-ce pas ? Cléo la juriste, Cléo la sans cœur.
Personne ne pense une chose pareille, mon ange.
T'es gentille, maman, mais ça prend pas. Ah, et puis je m'en moque. Les faits sont les faits. Je ne vais pas redérouler ici l'historique de la loi Fernier.
Oh là.
Nous sommes en 2038, tout le monde est neuroconnecté, et les dispositions du texte, que je sache, n'ont pas été récemment amendées. Donc, vous le savez, de 70 à 80 ans, toute personne libre de conscience et de jugement, quel que soit son état de santé, peut opter pour une cessation anticipée d'activité physiologique.
La mort. Oui, de notre temps, on appelait ça la mort.
De votre temps, papa, on ne pouvait pas transférer la somme de son identité décorporalisée sur le net.
Bon, pour ce que ça change, hein, l'intelligence sans la conscience...
C'est tout de même mieux que l'inverse, non?
Dites, ça vous dérange si je continue? Merci. De 70 à 80 ans non inclus, donc, on peut volontairement tirer sa révérence et permettre à sa famille de bénéficier d'une rétribution forfaitaire inversement proportionnelle à l'âge. À 70 ans, la famille est quasi mise à l'abri. À 79, on parlera plus d'un petit coup de pouce.
Oui, on connaît ça. La monstruosité de cette loi.
Tout de suite, les grands mots. Monstruosité. Point de vue intéressant. On peut aussi avancer que la mort, comme le dit si gentiment papa, est monstrueuse. Que se retrouver à 10 milliards sur une planète aussi fragile et démunie que la Terre est monstrueux.
On a déjà eu cette conversation 1000 fois.
T'as raison. Mais c'est un sujet qui mérite d'être creusé, épuisé même. Et vous savez ce que je pense? La cessation anticipée d'activité physiologique peut se révéler une grâce.
Oh, pitié!
Une grâce! Et si, petit frère, le mois dernier, la mère de Sidoine s'est décidée, à 72 ans. Elle était en pleine forme, mais elle s'ennuyait ferme. Ils ont organisé une fête formidable, ça a duré 3 jours et 3 nuits. Elle est partie dans la joie, sans réaliser ce qui lui arrivait. Et surtout, sans souffrir le moins du monde. Pas de mélo, pas de grand cérémoniel pompeux, juste un soupir, terminé. Le frère de Sidoine était en fin de droit, comme toi, mon cher Bilal. Lui et sa sœur ont touché 800K. Il est désormais tiré d'affaire. Le mieux, sa mère est partie en sachant qu'elle lui offrait cette chance.
Ouais, c'est comme une deuxième naissance, en fait. Un départ fécond, une naissance à l'envers.
Vous savez ce que vous êtes.
Et tu sais ce que t'es, toi ? Un type qui profite du système depuis des années. Et soudain quoi ? Un problème de conscience ? Parce que c'est 800K. Tu cracherais dessus, peut-être ?
Attends, pour être sûr que je comprenne bien. Toi, Martin, t'aurais préféré que papa meure plus tôt, c'est ça ? Que sa mort te rapporte ?
C'est tellement plus compliqué que ça.
Compliqué mon cul ! Vous vous paierez quoi avec ces 800K ? Une croisière dans la stratosphère ? Un troisième divorce ?
Attends, je serai toi, je m'engagerai pas sur cette pente.
Oui, mais voilà, tu n'es pas
mes moi. Mes enfants, s'il vous plaît !
Laisse, chérie. C'est mieux si ça sort.
Tu as raison. De ce que j'en perçois, l'énonciation même des faits pose problème à certains. Je vais donc abréger, redire ce que nous savons déjà tous. Devant mon père, qui a eu un cancer, devant ma mère, qui a des pertes de mémoire, de 80 à 85 ans, la mort d'un parent ne rapporte plus rien à ses enfants. À partir de 85 ans, elle leur coûte. Pour un parent à enfant unique, les barèmes sont réévalués. Pour un parent sans enfant...
Allez, crache le morceau.
Pardon ?
À partir de 85 ans, elle leur coûte. Vas-y. Dis-leur à tes parents que ça serait mieux qu'ils meurent maintenant.
Non mais t'es dingue ou quoi ?
Mes enfants !
Est-ce que tu pourrais cesser de répéter « mes enfants » en boucle, s'il te plaît ? C'est horripilant. Papa, maman, que les choses soient parfaitement claires, Martin et moi, nous ne vous avons jamais rien demandé et nous ne vous demanderons jamais rien. Nous ne faisons que conjecturer. Si réfléchir est un crime, si formuler des hypothèses est un délit, j'aimerais mieux le savoir tout de suite.
Putain, papa a raison, il y a quelque chose de monstrueux chez toi.
Papa n'a jamais dit une telle chose.
Non, mais je l'entends penser. Et je vous entends aussi tous les deux. Mince, cet enfoiré s'est pas décidé à mourir pendant les 10 ans où ça aurait pu nous rapporter du fric. Et dans 5 ans, c'est à nous que ça va en coûter. Peut-être que c'est le moment de venir lui mettre les points sur les i.
Mon pauvre, pauvre Bilal. Ce n'est pas nous que tu entends, et ce n'est certainement pas moi, c'est toi-même. Toi, le soi-disant laissé pour compte, qui vit au crochet de l'État depuis 15 ans. Comme tu t'ennuies, tu refais l'histoire, tu t'imagines des choses, c'est si simple. Regarde-moi, je n'ai jamais souhaité la disparition de papa, d'accord ? Et jamais, jamais je l'encouragerai à sauter le pas. Pas pour 500K, pas même pour 1 million. Par ailleurs, qui te dit que l'argent de l'après n'a pas déjà été provisionné ? Qui te dit que nous n'avons pas déjà anticipé, Martin et moi, l'idée que papa puisse vouloir prolonger son existence?
Prolonger? Non mais tu t'entends? On dirait un caprice.
Oh, bienheureux Bilal avec ce petit jouet, au pays tout noir et tout blanc.
D'accord. Admettons, vous avez provisionné. Bravo. Et dans ce cas, pourquoi cette discussion? Une saine et amicale récapitulation, c'est ça? Regarde, papa, comme on est des enfants aimants. On te demande même pas de crever. Enfin, naturellement, si l'idée t'en venait...
Non, je crois que nous devrions briser là.
Peut-être, peut-être pas.
À moins que les véritables intentions de ma fille nous aient échappé. Cléo, ma puce, y aurait-il quelque chose que nous pourrions avoir raté ?
Je vais le faire, moi. Pardon ? Je vais le faire. L'année prochaine.
Tu plaisantes, n'est-ce pas ?
Nullement. Votre père et moi en avons déjà discuté et il est d'accord. Mes troubles neurologiques s'aggravent, je suis sûre que vous l'avez noté. J'en suis arrivée au point où je ne peux même plus discuter sans clavier avec une unité centrale. J'ai consulté 3 intelligences artificielles généralistes et leurs conclusions sont les mêmes. Ce que j'ai perdu, je ne le retrouverai pas. Alors je vous le répète, je vais le faire. L'année prochaine, la veille de mes 72 ans, vous toucherez 950K net. À vous répartir. Je suis désolée, ce n'est pas divisible par 3, mais...
Maman,
je veux que ça se les dispute.
Non, c'est pas possible.
Maman, t'es pas sérieuse, on décide pas ça comme ça.
Crois-moi, j'ai largement pris le temps. Il se trouve que je suis encore en pleine possession de mes moyens. Il se trouve aussi qu'on m'a prédit une lente et pénible dégradation de mes facultés. Je trouve que ça suffit. C'était un beau voyage, mais je veux bien descendre au prochain arrêt.
Et tu comptais nous en parler quand ?
Quand le temps serait venu, manifestement, il l'est.
Maman, c'est n'importe quoi. Prenons le temps d'en parler ensemble.
Non, ma décision est prise. Mûrement réfléchie. Et je vais même aller plus loin. Votre père et moi, nous partirons ensemble.
Quoi ?
Tous les deux en même temps ?
Vous vous moquez de nous.
Si vous laissiez parler votre mère.
Je crois que je me sens pas très bien.
Ce n'est rien, mon grand. Rien du tout. Un soupir, a dit ta sœur. L'idée va descendre doucement en toi.
À dire vrai, nous n'avions pas prévu de vous l'annoncer aujourd'hui. Et enfin, certainement pas de cette façon. Ma chérie, ton sens du timing nous a un peu fait défaut sur ce coup-là. Mais avouez, les enfants, que vous l'avez quelque peu cherché.
Ça, papa, je ne l'admets pas. Si tu veux insinuer que...
Oh non, du calme, ma puce. Tout va bien, personne n'est blessé, personne n'a besoin de l'être. Il s'agit là de sujets hautement délicats, inflammables même. Et nous pouvons, nous voulons éviter l'incendie.
D'autant qu'il y a autre chose.
Oh, mais ma chérie, s'il te plaît.
Quoi maintenant ? Nous avons une sœur cachée ?
Non. Enfin, pas que je sache, non. Ma chérie, tu permets ? Et je vais vous la faire courte. Cléo, Martin, je crois me souvenir que nous avions évoqué la possibilité d'une avance sur l'aigle. Oh, pas grand-chose, hein. 100K, par exemple. 100K pour l'année qui nous reste. Votre mère et moi aimerions partir en voyage.
C'est trop tôt. Je refuse d'envisager ça.
Tu refuses le principe d'une avance ?
Non, je refuse de vous imaginer mort.
Tiens, tu prononces le mot maintenant ?
Donc, vous voudriez juste que Cléo et moi, nous vous prêtions 100K, c'est ça ?
Mes enfants... Non,
vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe une disposition fiscale.
Oui, la loi mieux vieillir. Oui, merci, on connaît. À la fin, c'est l'État qui nous rembourse.
À la fin, tu veux dire à leur mort ?
Reste en dehors de ça, Bilal.
Et vous y gagnez, c'est ça ? Maman, ils y gagnent ?
Non, je ne crois pas.
Il s'agit d'un montage financier assez complexe. Nous, en gros, on allège notre épargne. L'État place la somme sur un compte d'investissement dédié qui lui confère certains avantages non conventionnels. En gros, il se paye sur les intérêts que nous ne toucherons pas. Mais à la fin, nous récupérons la somme. Gagnant-gagnant, dans un contexte non-inflationniste, s'entend. Un prêt à taux nul, si tu préfères.
Je préfère que dalle.
Ça ne change rien, mon garçon. Nous savons bien que ta situation financière est plus délicate. Personne ne va s'enrichir indûment si c'est là ta crainte. C'est simplement de l'argent dont nous disposerons au cours de cette dernière année.
Ne dis pas ce mot-là.
Argent ?
Non, dernière.
Je vais aller chercher le dessert. Jérôme, tu viens m'aider ?
Nestor peut pas s'en charger ? Et tiens, où est-il au fait ?
Chez le réparateur. Problème de mémoire interne.
Ils vous fournissent pas un modèle de rechange ?
Nous sommes encore capables de débarrasser 5 assiettes et d'en rapporter 5 autres.
Sans déconner, vous êtes content de vous ?
De quoi tu parles ?
Dans un an, orphelin.
Les choses suivent leur cours, petit frère.
Je sais pas ce que je déteste le plus chez toi. Ta suffisance ou ton absence totale d'empathie.
Ce que tu appelles empathie, moi, j'appelle ça faiblesse d'esprit. Tu les as entendus ? Ils ont pris leur décision, on ne les fera pas revenir dessus.
Et n'essayons surtout pas, hein ? 950K, ça serait dommage.
C'est leur choix, bon sang, respecte-le.
Leur choix ? Parce que toi, tu crois vraiment que leurs parents à eux, ils l'auraient fait, ce choix ? Tu crois que les gens qui sont morts en 2020, ils étaient mis en demeure de choisir ?
Eh bien, je pense qu'ils auraient préféré, oui.
J'ai pas de mots.
Et c'est... Merci ? Et c'est... Pardon, je me suis trompée sur votre compte.
Je vais aller leur parler, ça se terminera pas comme ça.
Oh, arrête ton cirque, nous sommes tous adultes.
Crever à 71 ans pour nos beaux yeux. Non, mais vous imaginez ce qu'ils sont en train de se dire, là, maintenant ?
Ça va ?
Pourquoi ça n'irait pas ?
Je dois reconnaître que je t'ai trouvée parfaite.
Tu dis ça pour me faire plaisir.
Non, je te jure que non. Même moi, j'y aurais cru.
Arrête ! Répète-moi plutôt que tu sais ce que tu nous fais faire.
Embrasse-moi. Je sais absolument ce que je nous fais faire. Ils vont verser l'argent, aucun doute. Ils le verseront, parce qu'ils penseront que ça les exonère. Ils penseront qu'ils ont fait leur part.
Je n'aime pas quand tu parles d'eux comme ça.
Comment comme ça ?
Comme s'ils étaient conscients qu'ils nous poussaient vers la mort. Je suis leur mère, j'ai envie de les aimer encore un peu.
Mais pense à Bali, pense à la plage. Avec 100K, on peut tenir 20 ans.
Et s'ils nous retrouvent ?
Ils essaieront, t'inquiète pas. Mais ils n'iront pas au bout. La procédure elle-même leur coûterait trop cher, ils ne s'y retrouveraient pas. Et puis, ça leur fera une histoire à raconter à leurs petits-enfants si la loi change un jour. Nos parents, ces truands magnifiques, eux, ici, à geindre doucement, à transférer leur bel esprit dans le cloud, morceau par morceau, en attendant leur propre fin. Nous, à Bali, la plage, le sable blanc.
Ils disent que la mer continue de monter.
Ouais, d'ici à ce qu'elle nous lèche les orteils, nous avons encore un peu de temps.
Et Bilal ?
Bilal nous rejoindra s'il en a envie. Et il en aura envie.
Le ciel t'entend.
Mais un ciel sans nuages, s'il te plaît. Et l'addition. Allez, championne, on y retourne. Ultime tour de piste. N'oublie pas d'essuyer une larme, si tu peux. N'oublie pas ton... Mes enfants, mes enfants, ils sonnent à merveille. Oh, la tête que fait Cléo à chaque fois, c'est impayable.
Tu es un monstre.
Certes, mais à l'ancienne. Le monstre qui sait qu'il en est un. Bon. Tu prends le chafoutis ?
Il ne fait pas trop chaud à Bali ?
Si, si, mais c'est une chaleur qui ne varie pas. Et c'est ça qu'on veut, non ? C'est ça qu'on aime. Rappelle-toi que ça ne change pas.
Papa, maman, ça va ?
On fait aller, ma chérie. Il y aura des jours meilleurs.
Bel Esprit, une fiction écrite par Fabrice Collin, réalisée par Sophie Haute-Picon. Générique à retrouver sur franceculture.fr.
Et vous retrouverez un prochain épisode de Fiction Imagine demain. C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, Victor Bérard, l'homme qui tenta de reconstituer les voyages d'Ulysse.
Et nous sommes au kilomètre 261 depuis Source-Seine, en continuant notre exploration des bords de la Seine. Et c'est le moment de vous parler d'Ulysse. Après tout, au fond, le roman, comme disait Caillois, c'est soit une Iliade, soit une Odyssée. Et je vais vous présenter la vie d'un homme qui, après beaucoup d'aventures honorables, a décidé de devenir Ulysse. Un homme admirable et à peu près oublié qui fut l'un des disciples lointains du héros d'Homère. À cette différence près que Victor Bérard, puisque c'est de Victor Bérard dont je vais parler, a remplacé lui dans toute sa vie la ruse par la franchise. C'est un enfant de la Troisième République qui a connu un parcours classique de la Troisième République. Il est né en 1864 dans le Jura et très tôt, il a eu comme enfant le spectacle des mésaventures de la politique. Il a vu ce que la politique produisait de drames quand elle n'était pas convenablement conduite, puisque avec son père pharmacien, il avait assisté à la déroute de l'armée Bourbaki, à la retraite de la Cluse dans le Jura, où des milliers de soldats mouraient de froid dans la neige. En 1884, il rentre à la rue d'Ulm, et là, il a comme professeur deux grands géographes de l'époque, qui sont Fussel de Coulanges et Vidal de la Blache. C'est l'époque où, après la défaite face à l'Allemagne, l'idée est de se mettre à l'école de l'Allemagne et d'apprendre de l'Allemagne, ce qui a fait de l'Allemagne une grande nation capable de battre la France. Et c'est ainsi que Victor Bérard apprend l'allemand, mais que, assez curieusement, il en deviendra, d'une certaine manière, un adversaire résolu, non pas de l'Allemagne, mais des prétentions de ce qu'il a appelé la science allemande. Vous vous souvenez que Schliemann, l'archéologue, avait découvert Troie, et a publié un livre présentant cette découverte comme une victoire de la science allemande, et ça a donné lieu à un magnifique pamphlet de Victor Bérard qui s'appelle « Schliemann, un mensonge de la science allemande ». En 1887, il quitte l'école normale et il découvre l'école française d'Athènes. Et pour lui, c'est un éblouissement. Voilà cet enfant du Jura, pur produit des universités françaises, et qui découvre le monde de la Méditerranée et qui en prend un éblouissement, qui en prend une empreinte qui ne le quittera jamais pour toute sa vie. C'est un peu pour lui l'été à Tipaza et on imagine au fond les barbes, les redingotes épaisses sous le soleil de Délos. À Mantinée, là où il fouille pour la première fois, il fait une véritable, ce qu'on appelle maintenant une percée conceptuelle, en expliquant pour la première fois l'histoire du site par sa géographie. Et il passe des années heureuses entre le vin résiné et le silence des dieux. Il apprend l'hébreu, il s'intéresse à la Bible, il devient professeur à l'école navale quand il revient en France. Et c'est là où la conscience politique, qui avait toujours été probablement sous-jacente chez lui, le rejoint. C'est l'affaire Dreyfus. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, elle est bien notée par les cadres de l'école navale. Après l'affaire Dreyfus, on trouve dans son dossier une note de 1898, valeur intellectuelle peu contestable, rectitude du jugement beaucoup plus. C'est parce que Victor Bérard a pris position en faveur de l'innocence du capitaine Dreyfus. Il commence, en dehors de ses travaux archéologiques qui sont absolument majeurs, a publié des analyses politiques qui sont précises et superbes. La politique du sultan, par exemple, est tout à fait transposable aujourd'hui à ce qu'on peut imaginer, penser à propos d'Erdogan. C'est une pensée politique qui est présentée dans une langue vivante, dans une langue belle, avec des descriptions parfois stendhaliennes, rapides et lumineuses, comme sa description de Constantinople. La description par Bérard de la peur inguérissable du sultan, cette peur qui est au fond au cœur de tout despote, est un véritable morceau d'anthologie. Et puis, il y a chez cet universitaire qui était pur, qui était droit, que tous les gens de son époque ont décrit comme une personnalité morale incontestable, une absence totale de prudence qui nous séduit. Il y a une violence chez Bérard, et on peut encore méditer cette phrase qu'il a écrite sur les persécutions religieuses en pensant à tous ceux, Syriens, Égyptiens, que ce pays de la liberté, la France qui est le nôtre, a abandonné. Je vous cite la phrase que Bérard a écrite à propos du massacre des Arméniens. « Apprenez le français, petites Arméniennes, vos pères l'avaient appris. Quand le présent leur semblait trop dur, ils regardaient vers la France, mais sans un mot, sans un geste de pitié. Nous avons laissé assommer vos pères. » Il est renvoyé des revues où il écrit pour cause de dreyfusisme. C'était pourtant un digne professeur, le plus grand archéologue de son temps et aucunement un anarchiste. Il est filé par la police, il figure sur la liste des signataires de J'accuse et c'est avec d'autres qu'il fonde la Ligue des droits de l'homme, se liant avec Blum, Clémenceau et Mirbeau. Et il s'installe en 1910 ici, au 75 avenue d'Enfer Rochereau, là où nous sommes. Alors on ne voit plus la maison puisque maintenant c'est un monstrueux bâtiment parisien de style bulgare qu'on pourrait voir absolument n'importe où en Europe et qui ne ressemble pas du tout à la petite maison qu'habitait Bérard et derrière laquelle il avait construit un jardin avec tout ce qui pouvait lui rappeler l'Orient, avec des figuiers, avec des bougainvilliers, avec des choses dont on se demande comment il arrivait à les acclimater à Paris. Et c'est là qu'en 1914, alors qu'on pensait que les Allemands allaient rentrer dans Paris juste avant la victoire de la Marne, qu'averti qu'il était sur la liste noire des Allemands, il a fait brûler ses archives dans son jardin. Mais Bérard restera surtout dans nos mémoires pour autre chose, pour un livre extraordinaire qui sont les 4 volumes des Navigations d'Ulysse qu'il a publié en 1927. Bérard a eu une intuition. Il a pensé qu'Homère racontait dans l'Odyssée un périple phénicien dont il avait eu connaissance et que donc l'Odyssée n'était pas sorti tout armé de son cerveau de créateur littéraire. Ulysse, pour Bérard, est réel. Et Bérard, dans les années 1912-1913, même si le livre ne sera publié que plus tard, loue un yacht et se met à la poursuite d'Ulysse. Et de même qu'Ulysse est réel, il va mettre dans les Navigations d'Ulysse toute l'histoire de sa vie, des notations personnelles, des récits de voyage aux Antilles, des techniques de chasse au blaireau. Il va même commenter la finesse de la silhouette du petit chaperon rouge. Tout y est, y compris les cailles rôties dans les feuilles de vigne, les raisins refroidis dans la jatte poreuse. On a parlé à ce propos de collage de la vie. On l'a rapproché des surréalistes. Il était accompagné d'un extraordinaire photographe, qui est un Suisse, si je me souviens bien, qui s'appelait Boissonnas. Et à la fin, comme par un retour merveilleux, Boissonnas se convainc que Bérard est Ulysse, ce qui n'était pas si faux. Et il le photographie sans relâche. Il cesse de photographier la grotte de Nausicaa, les rochers, les choses où Bérard imagine qu'Ulysse est passé. Non, c'est Bérard qu'il photographie. Il a conscience, il croit qu'il est avec Ulysse. Il le photographie dans le bois de Perséphone, dit-il, avec ses saules aux fruits morts et ses hauts peupliers. Et c'est ainsi, au fond, que s'accomplit dans ce livre magique et dans les mirages de l'argentique la destinée de cet homme intelligent et enfantin qui avait rêvé la République comme si elle était une autre Ithaque.
On se retrouve lundi pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Djergaillan, Lou Quevauvilliers, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation, Lise Combe, à la technique, Julien Calvas. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.